Vous êtes française ou français et vous résidez à l'étranger? Les élections européennes arrivent à grands pas. Rendez-vous le dimanche 9 juin pour élire les représentants français au Parlement européen. Ou le samedi 8 juin si vous résidez sur le continent américain ou dans les Caraïbes. Bon vote!
Les nuits de France Culture, jusqu'à 6h du matin. France Culture la nuit, une mémoire radiophonique.
Avez-vous vu La nuit américaine, le beau film de Truffaut? Un homme, un peu âgé, grand, et très élégant, il fait une apparition sous le nom de Henry Graham. Cet admirateur de Truffaut n'est autre que l'écrivain Graham Greene, qui avait alors 69 ans, l'un des plus grands écrivains du XXe siècle. Romancier catholique anglais, son œuvre est celle d'un aventurier, journaliste, espion, scénariste. Il entretint toute sa vie, et outre cette fugitive mais fulgurante apparition dans la nuit américaine, une belle relation avec le cinéma. Il est l'auteur du scénario du film « Le troisième homme » et son roman « Le ministère de la peur » fut porté à l'écran par Fritz Lang sous le titre « Espion sur la Tamise ». La présence de l'œuvre de Graham Greene, comme celle de son modèle François Mauriac, est indispensable dans la bibliothèque de tout vrai grand lecteur. Cette émission, datant de 1959, lui rend un vibrant hommage.
Au cours de notre émission « Connaissance de l'homme », consacrée au grand courant de pensée du XXe siècle, nos auditeurs pourront entendre M. Pierre de Boisdeffre, qui nous parlera de la pensée de Graham Greene. Les pages d'illustrations qui seront lues par Françoise Fechter et Alain Cuny sont tirées des ouvrages suivants. La fin d'une liaison, La puissance et la gloire et Le fond du problème. Tous trois parus chez Robert Laffont dans une traduction de Marcel Cibon. Nous donnons maintenant la parole à M. Pierre de Boisdeffre.
Né le 2 octobre 1904 à Berkhamsted, où son père dirigeait une public school, Graham Greene appartient à la génération de Sartre et de Malraux. Par tempérament, il est un de ces non-conformistes auxquels la Grande-Bretagne doit le plus clair de son génie. De ses années de collège et plus généralement de l'embrigadement social, il a gardé l'horreur chevillée au corps. Aujourd'hui encore, quand il veut se représenter l'enfer, il évoque ses souvenirs d'enfance.
Cloisons de pichepin dans des dortoirs où jamais tout le monde n'était endormi en même temps. Cabinet d'aisance sans serrure, promenade en rang par deux sur les routes de banlieue. Pas de solitude nulle part, jamais.
Adolescent, il joue aux jeux dangereux chers aux héros de Dostoïevski, avale le contenu d'un tube d'aspirine avant de se jeter dans une piscine où s'amuse à risquer sa vie en appuyant un revolver contre sa tempe et en faisant tourner le barillet chargé d'une seule balle. Étudiant à Balliol, à Oxford, il prolonge le souvenir des dandys wildiens et publie à 24 ans chez Blackwell de curieux poèmes aujourd'hui introuvables. Sa légende veut qu'il ait tout de suite après erré à travers le monde. En fait, il commença par prendre ses grades dans le journalisme. Mais un événement considérable se produisit alors dans sa vie. En 1926, il tomba amoureux et devint catholique. Son mariage avec Vivienne Dayrell Browning suivit de peu sa conversion. Cependant, secrétaire de rédaction au Graph Times, il consacrait ses heures les plus ferventes à la littérature et, dès 1929, publiait « The Man Within ». L'audience limitée de cette première œuvre ne le découragea pas. Jusqu'à la guerre, il continua de publier un volume par an. En même temps, il ne perdait pas une occasion de s'échapper de son île au cours de grands voyages du Liberia au Mexique, dont il devait recueillir la substance dans ses romans. En 1940, le fruit de ses efforts lui parvenait avec la puissance et la gloire Prihofernden, mais la guerre était peu propice à une carrière littéraire. Affecté au ministère de l'Information, puis au Foreign Office, Graham Greene passait de longs mois en Afrique occidentale anglaise. À l'armistice, il avait quitté le Times pour prendre la direction de la vieille maison d'édition Eyre and Spottiswood et recommençait à voyager de Malaisie en Indochine et dans les deux Amériques. On sait qu'il eut maille à partir avec les autorités d'immigration des États-Unis, tombant sous le coup du McCarran Act pour avoir appartenu à Oxford à une association estudiantine communiste. Le succès international du troisième homme et du fond du problème, ses reportages, d'éclatants débuts au théâtre avec The Living Room, avaient fait de lui, entre-temps, une des vedettes de l'actualité mondiale. Le succès n'a pas transformé Graham Greene. Il est resté l'étudiant inquiet, le rêveur impénitent obsédé des mêmes thèmes des années d'Oxford, qu'évoquait récemment son ami Ronald Matthews dans un ouvrage paru chez Des Clés de Brouwer. Greene développe chez ses personnages les éléments de son propre malheur, comme s'il voulait exorciser sur eux les maux dont il se sent incapable de triompher. Sa conversion elle-même n'a rien pu changer à sa mélancolie. Si le héros de ses livres est presque toujours un homme traqué, c'est qu'il a joué plus d'une fois dans sa vie ce rôle symbolique et qu'il se souvient encore d'avoir été lui-même agent secret. La révolte de Greene n'est nullement teintée de marxisme. Elle rappelle plutôt la protestation contre l'injustice des vieux socialistes proudhoniens, greffés sur un fond d'anarchisme gallois et de socialisme fabien. Où nous reconnaissons l'anglais, c'est lorsqu'il oppose le gentleman au bourgeois. Car, dit-il, le prolétaire a ses qualités et l'aristocrate est souvent bon, juste et brave. On le paye pour gouverner, pour enseigner ou pour guérir, ou bien son argent lui vient de son père. Peut-être ne le mérite-t-il pas, mais il n'a pas fait de mal pour l'acquérir. Tandis que le bourgeois, lui, achète bon marché et vend cher, il achète aux travailleurs et revend aux travailleurs, c'est un inutile. Plus encore que l'égoïsme des bourgeois, Greene déteste, tout comme chez nous Gide ou Sartre, leur conformisme hypocrite. Il n'a pas de mots assez durs pour ces gens qui essuient une larme devant les infirmières, mettent des vêtements noirs pour aller aux enterrements, un col propre pour le prêtre ou le notaire, mais dont les visages durs, confiants, bien élevés, préservés de la douleur, de la pauvreté et du malheur, cachent une insensibilité radicale à tout ce qui n'est pas leur intérêt. De ces nantis, le terrible Sir Marcus, de tueur à gages, est l'incarnation presque diabolique.
Il n'avait que peu de passion, un peu d'avidité gourmande, son lait chaud, un peu de vice, glissait sa vieille main une fois par hasard dans un corsage de femme, un peu d'avarice et de calcul, un demi-million contre une mort d'homme, et, faible mais permanent, un sens de la conservation presque mécanique.
Graham Greene se sent plus près des hors-la-loi qu'il peint avec un amour lucide, qui touche presque à la complicité, que des robots humains d'une société qui a perdu son âme. Pour lui, comme pour le Malraux des conquérants, la haine ressemble beaucoup à l'amour physique. Elle a ses moments de crise et ses périodes de calme. Elle est à l'origine des mêmes actions. Elle lie avec autant de force. La haine peut engendrer l'amour alors qu'un amour médiocre ne peut produire aucun bien. Les péchés véniels, l'impatience, les petits mensonges, la vanité, les occasions perdues éloignent de vous la grâce plus irrémédiablement que les plus graves forfaits. Dans son innocence d'alors, dit-il d'un de ses héros, il n'y avait pas place pour l'amour. À présent, la corruption lui avait appris. Dans la préface qu'il a donnée au beau livre de Victor de Pange, paru aux éditions universitaires dans les classiques du XXe siècle, M. François Mauriac observe avec justesse.
Graham Greene se méfie de la sainteté officielle. On dirait que le péché le rassure, qu'il ne se sent dans le royaume de la grâce que s'il se meut dans le royaume du crime, et que, pour lui, le Christ qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu n'habite pas les hauteurs glacées, où se retranchent les purs. C'est au plus épais de la boue qu'il décèle la perle sans prix. Je ne suis pas sûr qu'il n'y ait là une secrète complaisance. Je crains qu'il ne donne parfois un coup de pouce complice à l'histoire de la grâce dans le monde criminel.
Pour le converti Graham Greene, rester très proche en cela de Léon Blois ou du premier Peggy, corruptio optimi est pessima. Le Seigneur tente ceux qu'il appelle justement à lui. Ce sont ceux qu'il aime qui frôlent le désespoir, le péché sans pardon. Une sorte de pitié passionnée les pousse à accepter la damnation pour partager le sort de ceux qu'ils aiment. C'est du moins ce que pensent les plus troublants héros de Greene. Rose, dans Brighton Rock, amoureuse du sauvage et cruel gamin.
Il allait se damner. Mais elle leur montrerait qu'il ne pouvait pas le damner sans la damner du même coup. Il n'y avait rien qu'elle ne pût faire, qu'elle n'accepta de faire. Elle se sentait capable d'aider à un meurtre. Elle ne le laisserait pas pénétrer seule dans ses ténèbres.
Le prêtre de la puissance et la gloire, pour qui le mystère devenait trop grand, un homme damné mettant Dieu dans la bouche des autres hommes, quel étrange serviteur du diable était-ce donc ? Et surtout le scobie du fond du problème, qui préfère disparaître plutôt que de s'enfoncer dans le mal.
Tant que je vivrai, je ne puis les abandonner, mais en décidant de mourir, je purge leur sang de ma présence. Je suis leur mal, et toi aussi, mon Dieu, je suis ton mal. Je ne puis continuer à t'offenser pendant des mois et des mois. Il vaut mieux pour toi-même que tu me perdes une fois pour toutes. Je sais ce que je fais. Je n'implore pas ta miséricorde. Je vais me damner, quel que soit le sens de ce mot. Tu pourras m'oublier, Seigneur, pour l'éternité.
Étrange conception du catholicisme chez un converti, rester plus proche de nos jansénistes que de saint François d'Assise. Pour lui, si Dieu est le père, il est aussi le policier, le criminel, le prêtre, le maniaque et le juge, qui tisse patiemment la toile au centre de laquelle l'araignée humaine finira par se prendre. Graham Greene n'est pas loin de confondre l'action de la grâce avec ses cheminements secrets, ses ruses, ses ressources infinies avec la fatalité. Un dénouement qui nous paraît absurde n'est souvent pour lui que le revers d'une médaille miraculeuse. Il n'est pas jusqu'au suicide de Scobie qui ne témoigne ainsi d'une foi invincible dans l'existence de l'homme-dieu, à la fois juge et complice, victime et témoin. Et dans le dialogue entre Mrs. Scobie et le père Rank, nous voyons bien de quel côté penche le cœur du romancier.
« C'était un mauvais catholique, » dit la veuve, péremptoire. « Voici la plus sotte phrase qui soit d'un usage commun, » réplique le père, outré, et le dialogue continue. Et puis, pour finir cette horreur, il savait sûrement qu'il se damnait lui-même. Ah, il le savait très bien. Il n'a jamais cru à la mansuétude, sauf en ce qui concernait autrui. On ne peut même pas prier pour lui. » Le père Rank ferma d'un claquement sec la couverture du journal de Scobie et dit avec fureur : « Pour l'amour du ciel, Mrs. Scobie, n'allez pas imaginer que vous ou moi, nous ayons la moindre idée de ce que peut être la miséricorde divine. » L'Église dit : « Je sais ce que dit l'Église. L'Église connaît les lois, mais elle ignore tout ce qui se passe dans un cœur d'homme. »
Bref, Scobie était coupable, mais il aimait vraiment Dieu, son confesseur l'atteste. Dans l'admirable fin d'une liaison, le plus beau peut-être de tous les romans de Greene, on voit l'amour divin d'abord tout mêlé à l'amour humain finir par en triompher. Comme chacun de nous, Sarah veut d'abord de l'amour humain, ordinaire et corrompu. « Mon Dieu, murmure-t-elle, vous savez que je veux aspirer à partager vos souffrances, mais je ne veux pas les partager tout de suite. » Emportez-les pour le moment et donnez-les-moi une autre fois. Mais peu à peu, elle apprend à aimer la souffrance, elle souhaite partager celle d'autrui. Par pitié, mais aussi par amour, elle embrasse la tache lie de vin qui lui fait pourtant horreur sur le visage du prédicateur athée.
J'ai mis un baiser sur la souffrance, et la souffrance est vôtre, comme le bonheur ne l'est jamais. Enseignez-moi à aimer, peu importe ma souffrance. C'est leur souffrance que je ne puis supporter. Que ma souffrance dure à jamais, mais que la leur prenne fin. Mon Dieu, si seulement vous pouviez descendre un peu de votre croix et m'y laisser monter à votre place.
Le message de Graham Greene rejoint ainsi celui de Blois, de Peggy, de Bernanos. Tout est grâce. En apparence, Dieu est le grand vaincu de ce monde, et sa croix est l'image même de son échec. Inscrite dans la misère des petits, dans la chair des malades et des agonisants, dans le désespoir des humiliés et des offensés. Mais le Christ triomphera avec eux tous le jour de la résurrection. L'originalité de Greene, c'est d'inscrire dans un contexte moderne ce débat éternel et dramatique, de conférer une signification spirituelle au climat souvent sordide de son époque. Il y aurait encore beaucoup à dire sur sa technique, où le roman policier, le thriller, prend un sens métaphysique, ou sur son humour, assez féroce parfois, comme en témoigne un Américain bien tranquille. Mais l'art du romancier ne s'éloigne jamais beaucoup de cette ligne de cœur de son œuvre, la poursuite de la brebis perdue par le pasteur qui ne peut se résigner à l'abandonner. On connaît le thème de la fin d'une liaison. Ce n'est pas seulement, comme le titre l'indique, la fin d'une liaison, mais bien plutôt le sacrifice d'un amour humain et charnel à l'unique amour qui attend les meilleurs d'entre nous. Sarah, qui est l'épouse d'un haut fonctionnaire londonien, est aussi la maîtresse d'un romancier à succès, Maurice Bendrix. Et l'action se passe pendant la guerre, aux pires heures du Blitz. Sarah, pour sauver l'homme qu'elle aime, va accepter de le perdre. Son amant disparaît sous les gravats d'une maison qui s'écroule. Elle fait une prière mentale, « Mon Dieu, qu'il soit sauvé, et je renonce à lui pour l'amour de vous. » Et son drame, son affreux bonheur, sera d'être exaucé.
Je savais que quelque chose allait arriver. Il n'y avait pas deux minutes qu'il était parti que j'entendais une explosion dans la rue. La chambre de Maurice donne sur la cour aussi. Il ne se produisit rien, sauf que la porte fut ouverte par le souffle de l'explosion et qu'un peu de plâtre tomba du plafond. Mais je savais que Maurice était sur le devant de la maison au moment où la bombe était tombée. Je descendis. L'escalier était jonché de plâtras et des débris de la rampe. Le vestibule n'était plus qu'un horrible fouillis. D'abord, je ne vis pas Maurice. Et puis j'aperçus son bras qui dépassait de dessous la porte. Je lui touchai la main. J'aurais juré que c'était la main d'un mort. Quand deux êtres se sont aimés, ils ne peuvent se dissimuler la moindre absence de tendresse dans un baiser. Alors, comment n'aurais-je pas reconnu la vie en touchant cette main, s'il en était resté encore? Je savais que si je prenais cette main pour la tirer vers moi, elle se détacherait et sortirait toute seule de dessous cette porte. Je sais maintenant, bien sûr, que c'était de l'affolement. J'ai été bernée. Il n'était pas mort. Est-on responsable de ce qu'on promet dans un moment d'affolement ou d'une promesse rompue? Je suis encore folle d'écrire tout ceci. Mais il n'existe pas un seul être, où que ce soit, à qui je pourrais dire simplement que je suis malheureuse. Car tous me demanderaient pourquoi. Les questions commenceraient et je m'effondrerais. Il ne faut pas que je m'effondre parce que je dois protéger Henri. Oh, que le diable l'emporte, Henri. Que le diable l'emporte. J'ai besoin de quelqu'un qui accepte la vérité à mon sujet et qui n'ait pas besoin de ma protection. Même si je suis une garce, un fantoche, une imposture, personne ne peut-il aimer une garce, un fantoche, une imposture? Je m'agenouillais sur le plancher. Il fallait que je sois folle pour faire ça. Même quand j'étais petite, on ne me l'a jamais fait faire. Mes parents ne croyaient pas à la prière, pas plus que je n'y crois. Je n'avais aucune idée de ce que j'allais dire. Maurice était mort, anéanti. Ce qu'on appelle une âme n'existe pas. Même le demi-bonheur que je lui donnais s'était écoulé hors de son corps comme du sang. Il n'aurait jamais plus l'occasion d'être heureux. Avec personne, pensais-je. Une autre femme aurait pu l'aimer et le rendre plus heureux que je ne l'avais fait. Mais il n'en aurait plus désormais l'occasion. Je me mis à genoux, la tête appuyée sur le lit. J'aurais voulu pouvoir croire. Mon Dieu, dis-je. Pourquoi, mon Dieu, pourquoi? Faites-moi croire. Je ne peux pas, forcez-moi. Je répétais, je suis une garce, un faucheton et je me déteste. Je ne peux pas arriver à faire de moi quelque chose de bien. Forcez-moi à croire. Je fermais les yeux très fort. Et j'enfonçais mes ongles dans les paumes de mes mains jusqu'à ne plus rien sentir d'autre que cette douleur, tout en répétant « je veux croire ». Qu'il soit vivant et je croirai, qu'une chance de vivre lui soit accordée, qu'il ait son bonheur, faites-le et je croirai. Mais cela ne suffisait pas. Croire, ce n'est pas souffrir. Ou si j'ajoutais « je l'aime », et je donnerai n'importe quoi si vous faites qu'il soit vivant. Je dis très lentement, je renoncerai à lui pour toujours. Mais qu'il soit vivant et qu'il ait sa chance. Et je crispai mes poings de plus en plus fort, je sentis la peau craquer. Je dis, les gens peuvent s'aimer sans se voir, n'est-ce pas? Ils vous aiment toute leur vie sans vous voir. Et alors il a surgi au seuil de la chambre. Et il était vivant. Et j'ai pensé, maintenant commence la torture de vivre sans lui. Et comme je voudrais qu'il soit de nouveau mort sous la porte, à l'abri de tout.
Le journal de Sarah va s'achever au moment même où elle n'a plus, semble-t-il, la force de tenir la promesse qu'elle a faite à Dieu, ce serment qui lui paraît impossible à tenir. Ces dernières pages, elle n'en peut plus, son âme est usée comme sa vie même.
J'éprouvais il y a 2 jours une si grande sensation de paix, de calme et d'amour. La vie allait recommencer à être bonne. Mais la nuit passée, j'ai rêvé que je montais un long escalier pour rejoindre Maurice. J'étais encore heureuse parce que je savais qu'en haut de ces marches, nous allions nous aimer. Je lui criais que j'arrivais, mais la voix qui me répondit n'était pas celle de Maurice. C'était celle d'un inconnu et elle claironnait comme la sirène qui avertit dans le brouillard les navires en détresse. J'avais très peur. Je pensais... Il a loué son logement à quelqu'un, il est parti, je ne sais pas où il est. Je redescendis l'escalier et l'eau me montait jusqu'à la ceinture dans le vestibule qui s'était empli d'une brume épaisse. Alors je me suis éveillée. Je ne suis plus en paix. J'ai envie de lui exactement comme autrefois. J'ai envie de manger des sandwichs avec lui, j'ai envie de boire avec lui dans un bar. Je suis très fatiguée. Et je ne veux plus souffrir. Je veux, Maurice. Je veux de l'amour humain, ordinaire et corrompu. Mon Dieu, vous savez que je veux aspirer à partager vos souffrances, mais je ne veux pas les partager tout de suite. Emportez-les pour le moment et donnez-les-moi une autre fois.
Les dernières pages de la fin d'une liaison rendent la parole à l'un des 3 protagonistes, Maurice Bendrix, l'amant assez odieux, assez égoïste, comme beaucoup d'hommes. Et nous assistons là, dans ces dernières pages, à sa révolte contre ce Dieu qu'il ne connaît pas, dont il ne partage pas la foi, et qui lui a arraché le cœur de celle qu'il aimait. C'est une sorte de sommation désespérée, la sommation que l'incroyant adresse à Dieu Ô Dieu, vous en avez fait assez, vous m'avez assez dépouillé, laissez-moi tranquille à jamais.
Je montai dans ma chambre et sortis le journal. J'en arrachai les couvertures. Elles résistèrent. La doublure de toile s'effilochait en lanières. J'avais l'impression d'écarteler un oiseau. Au bout d'un instant, le journal gisait sur le lit en une masse compacte de papier, blessé, les ailes arrachées. La dernière page était sur le dessus, et je relus. Vous étiez présent, et vous nous enseigniez à dissiper notre trésor afin qu'aujourd'hui rien ne nous reste que cet amour pour vous. Mais vous me montrez trop de bonté. Quand je vous demande la souffrance, vous me donnez la paix. Donnez-la à lui aussi. Donnez-lui ma paix. Il en a plus besoin que moi. Je pensais, voici pour le moins une de tes prières, Sarah, qui n'aura pas été exaucée. Ici, tu as échoué. Je n'ai pas de paix et je ne ressens pas d'amour sauf pour toi, toi. Je suis un homme de haine, lui dis-je. Mais je n'éprouvais pas une grande haine. J'avais parlé de l'hystérie des gens et mes propres paroles étaient bien excessives. Leur absence de sincérité m'était perceptible. Mon sentiment dominant était moins la haine que la peur. Car si ce Dieu existe, pensais-je, si même toi, avec ta lascivité, tes adultères et les timides mensonges que tu proférais, si tu es capable de changer ainsi, alors nous pouvons tous devenir des saints, rien qu'en faisant le saut, comme tu l'as fait, en fermant les yeux et en sautant une fois pour toutes. Si toi, tu es une sainte, il n'est pas très difficile de l'être. C'est une chose qu'il peut exiger de chacun de nous, sauter. Mais je ne veux pas faire le saut. Je m'assis sur mon lit et je dis à Dieu, vous me l'avez prise, mais vous ne me tenez pas encore. Je connais votre astuce. C'est vous qui nous emmenez jusqu'au sommet d'une montagne pour nous offrir tout l'univers. Vous êtes un démon, Dieu, de nous tenter ainsi pour nous faire sauter. Mais je ne veux pas de votre paix et je ne veux pas de votre amour. Je voulais quelque chose de très simple et de très facile. Je voulais que Sarah fût mienne toute la vie. Mais vous l'avez emportée. Par vos grandes entreprises, vous détruisez notre bonheur comme un moissonneur détruit un nid de souris. Je vous hais, Dieu. Je vous hais comme si vous existiez. Je regardais le bloc de papier. Il était plus impersonnel qu'une mèche de cheveux. On peut toucher des cheveux avec ses lèvres et ses doigts, et j'étais fatigué à mort des choses de l'esprit. J'avais vécu pour le corps, mais son journal était tout ce qui me restait. Aussi le remis-je en place dans le placard, car n'aurait-ce pas été une victoire de plus pour lui si je m'étais privé d'elle encore plus complètement en détruisant ses feuillets. Je dis à Sarah, c'est bon, ce sera comme tu le désires. Je crois que tu vis et qu'il existe. Mais toutes tes prières ne suffiront pas à changer en amour ma haine pour lui. Il m'a dépouillé, et comme ce roi dont tu écrivais l'histoire, je lui déroberai ce qu'il aime en moi. Je ne puis être guéri comme Smith et le petit Parkis. La haine est dans mon cerveau, non dans mon ventre ou dans ma peau. Elle ne peut s'enlever comme une tache de vin ou un point douloureux. Est-ce que je ne te haïssais pas alors que je t'aimais? Est-ce que je ne me hais pas moi-même? Je criai à Henri, « Je suis prêt !» Et nous nous mîmes en route côte à côte pour les armes de Pontefract, de l'autre côté des allées. Les lumières étaient éteintes et les amoureux se rencontraient au croisement des routes. De l'autre côté de la pelouse se dressait la maison au perron démoli où il m'avait rendu à cette vie mutilée et sans espoir. Ces promenades du soir avec vous me donnent beaucoup de joie, dit Henri. Oui. Je pensais, demain matin, je téléphonerai à un docteur pour lui demander s'il existe un traitement. Et puis je pensais, non, il vaut mieux n'en rien faire. Tant qu'on ne sait pas, on peut imaginer d'innombrables façons de guérir. Je posais ma main sur le bras d'Henri et l'y laissais. Il me fallait être fort pour deux désormais, et Henri n'était pas encore sérieusement inquiet. Ce sont à vrai dire mes seules joies, dit-il. J'ai écrit au début que ceci était un récit de haine, en marchant à côté d'Henri, tandis que nous allions boire notre verre de bière de chaque soir. Je trouvais la seule prière qui parut convenir à mon humeur d'hiver. Ô Dieu, vous en avez fait assez, vous m'avez assez dépouillé. Je suis trop vieux et trop fatigué pour apprendre à aimer. Laissez-moi tranquille à tout jamais.
Ainsi s'achève notre émission Connaissance de l'homme, aujourd'hui consacrée à Graham Greene, qui a fait l'objet d'un entretien de M. Pierre de Bois d'Effre et dont des pages ont été lues par Françoise Fechter et Alain Cuny.
Cette émission a été diffusée pour la première fois le 18 mars 1959. Vous pouvez la réécouter pendant 1000 jours et la télécharger pendant un an sur le site de France Culture.
What you're in, trouble you're in. In that dress that's as black as my heart on this train. Trouble's what you're in, trouble you're. With those lips that's as red as the blood in my veins. Trouble, you know where. Trouble, soft. What you're in, trouble you're in. 'Cause it's a long way to London Bridge in them heels, babe. Trouble's what you're in, trouble you're in. It's amazing how much one look can reveal. Trouble, you know where. Trouble, soft target. Trouble, you know where. Trouble, soft target. Trouble's what you're in, trouble you. I've been waiting for just one look. Trouble, you know where. Trouble, soft target. Trouble.